Je ne voudrais pas laisser passer les fêtes de Noël, les fêtes de Pâques, les fêtes de Voulenant, les fous de donner les fêtes de la Voulenanée, de la Vénoulel, de la V de l'an 9, sans vous présenter, si vous le permettez, mes souhaits, les Saint-Sulpice.
CO2, mon amour, Denis Chesson, sur France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans cette émission CO2 Mon Amour, l'émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie. Et puis tenez, tiens, ce que disait Abraham Lincoln, c'est pas mal non plus. La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer. À la technique aujourd'hui, il y a Juliette Delperou. Nous avons préparé l'émission avec Thomas Lehété et c'est Henri-Marc Mutel qui la réalise. Et ça commence, ah bah tenez, par une petite valse. Bon boudin, allant que vienne si sienne pour maille, que sienne pour mène, à la nouvelle année, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Oui, mais faut arrêter de secouer la terre comme un prunier sans fin. La vie tempêtait, valsait, tournait comme un rond-point. La vie sait toujours où aller. Elle s'adapte, se faufile, se réinvente. Mais les hommes, quand ils ont cassé la boussole et qu'une seule étoile, qu'un seul dollar les guide, bah c'est peut-être un peu moins sûr. Surtout, ne changeons rien aussi peu. Ah bah oui, tant qu'il y en a encore, on va taper dans la caisse. Hein. Allez, roulez, petit bolide. Hello, le marchand de rustine, tu m'en donnes un wagon? C'est pour coller sur les âmes et sur le monde. Dans notre galaxie, tapissée d'étoiles et de planètes, la Terre est un tout petit rond-point aux yeux bleus perdus dans l'univers. Un petit rond-point qui pataponne, un rond qui petit patapon, un point minuscule et génial, oui, qui a éteint plusieurs fois l'interrupteur des espèces puis les a fait renaître. Mais vu du ciel ou pas, là, ça va vite. Bien trop vite, dit l'oiseau qui a vu 30% de ses copains ne plus jamais s'envoler en 15 ans. Puis les abeilles, 75% des insectes en 30 ans. Les mammifères, bah pas mieux. Hein. C'est eux aussi, faut le dire, les printemps silencieux. Alors cette jolie croissance de malade pour bouffer des nuggets et faire fabriquer des t-shirts à 5 euros par des mômes dans un monde limité par les ressources, a-t-il vraiment un sens? Mais pas de souci. On aura bientôt dans le ciel en fait plus de passagers que d'oiseaux si on continue à prendre l'avion comme une trottinette. Connectés, bah oui, nous sommes pour s'envoyer des photos de la Terre qui était hier si jolie, qui était hier si prévert, tu te souviens? On pouvait s'y aimer, se nourrir, débattre de tout et de rien, car à la place de l'urgence, on avait à la fois de l'insouciance, mais aussi la confiance en l'avenir. Tu te souviens, toi, du son des abeilles? Tu parles des trucs rayés, six papates, là, avec des ailes? Bah, ce sont des drones, hein, pollinisateurs, qui les ont remplacés, mais on est un peu comme des cons parce qu'on n'a plus de batterie. Ah bah ouais, c'est ça. Tout le monde avait l'écologie à la bouche, avec tous les mots dans le bon ordre du développement durable et du RSE. Tout parfait. On n'avait jamais été aussi éthique. Mais l'ordre devait rester quand même à peu près le même. Vous le voulez comment et quand, votre effondrement? Ah non, je vous en prie, hein. Pas de gros mots. Hein. Va au charbon, ma fille. Bah non, justement, au charbon, faudrait plus y aller. C'est le vert, le vrai qu'il faut inventer, à moitié vide, à moitié plein, il faut montrer le chemin, pèlerin du climat, des sols nourriciers, pèlerin de la paix, faite à la nature, donc... faites aux hommes. Mais veut-on vraiment la paix? À quoi bon connaître les faits si les adultes les ignorent, nous rappellent les 15 ans de la jeune Greta Thunberg. À quoi bon nous farcir le crâne d'économie, de PIB, de frustration marketing? Vous en avez rêvé, le marché qui ruisselle si bien, la technologie vont vous le réaliser. Tourner et tourner jeunesse ou vieillesse autour du même rond-point. Mais quand même, il est encore temps. Et plein de gens sont prêts. Ouais. L'éveil et l'envie d'action poussent partout comme des champignons. Il y a la musique d'un vent qui lève. Tout n'est pas foutu, non. Restaurer les sols, choisir sa consommation, arrêter de gaspiller, les possibles sont énormes. Et même si dans la destruction nous sommes capables de grandes choses, eh ben nous sommes aussi, les humains, avant tout, l'espèce la plus sociale. Et l'avenir s'appelle la coopération, ce très joli mot qui avait été mis en avant par Jean-Marie Pelt il y a déjà 25 ans. Primo Levi écrivait... il nous reste encore une ressource et nous devons la défendre avec acharnement, refuser notre consentement. Alors que les forêts vous murmurent des histoires, que les rivières vous arrosent de mots à inventer ensemble, que les ciels fabriquent les plus jolies images dans le regard de nos enfants et que la vie 2019 nous sorte enfin, enfin, du neuf. Et dans cette émission, puisque c'est une valse, ça va être du trois temps. Et oui, il y aura des vœux coquelicots dans quelques instants avec Fabrice Nicolino, des vœux musicaux avec Émilie Loiseau et des vœux tout verts avec l'historien Michel Pastoureau. Bel après-midi.
Nous, jeunes français, j'attends pour nous, respectez-nous.
C'était le groupe Delgrès, c'était Respectez-nous. Ça va être un mélange, si vous voulez, de Martinique et de Louisiane. Je pense que c'est à peu près ça. Et tenez, voilà ce qu'il nous faut après les fêtes. Ah bah oui, un peu de détox.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessou.
Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant.
Sur France Inter.
Ah oui, ça calme tout de suite, ça calme tout de suite. Je ne sais pas si ça calme aussi du côté de Nantes, mais avec grand plaisir, grâce à nos amis de France Bleu Nantes, de France Bleu Loire-Océan et Claude Robard à la technique, eh ben nous rejoignons Fabrice Nicolino. Bonjour Fabrice.
Bonjour Denis, bonjour.
Alors cher Fabrice Nicolino, nous voulons des coquelicots, ça marche formidablement bien. On a envie d'avoir aussi vos vœux, vous, en ce début d'année. Donc qu'est-ce que vous avez un peu envie de dire, puisque donc ces coquelicots, même si c'est pas la saison, c'est comme le bleuet, mais c'est pas grave, ils vont ressortir. Bah, symboliquement, c'est quand même plus de 450 000 personnes hein, qui ont signé donc tout cela. Et on a quand même le sentiment que ça bouge quand même pas mal dans la société française, Fabrice.
Ah oui, vous avez raison, franchement, c'est merveilleux. Moi, j'ai envie de dire bravo à tous ceux qui nous ont rejoints. Figurez-vous qu'hier, j'étais dans une ville de province et il y avait un rassemblement de coquelicots comme comme à chaque mois.
Oui.
Le premier vendredi de chaque mois, il y a des gens qui se rassemblent devant les mairies à 18h30. Hier, il y avait 680 rassemblements simultanés en France. C'est énorme, c'est des dizaines de milliers de personnes qui, en effet, ont rejoint le mouvement des coquelicots, j'en suis infiniment heureux. Qu'est-ce qu'on veut? C'est très simple. On veut des coquelicots partout en France et ailleurs, dans le monde entier en vérité, parce qu'on ne veut plus de ce système que nous qualifions de criminel, le système des pesticides qui détruit des pesticides de synthèse, qui détruit tout sur son passage. Et ce qui est merveilleux, mais vraiment merveilleux, c'est qu'on sent, mais puissamment, que quelque chose est en train de changer en France. Il y a eu cette pétition pour le climat qui a réuni près de 2 millions de signatures. Mm-hmm. Il y a un autre mouvement qui s'inscrit dans la durée. C'est 2 années. Hein, on donne rendez-vous à nos soutiens en octobre 2020, figurez-vous. Donc chaque mois, on va se retrouver de plus en plus nombreux. Et tout ça me fait penser à moi personnellement que enfin, j'aurais vu ça dans ma vie. La société française se réveille et prend en charge ses problèmes, nos problèmes qui sont colossaux. J'écoute avec plaisir, vraiment plaisir, votre introduction, Denis. Et vraiment, cette année 2019, c'est l'année du grand réveil. Je le pense profondément. Et on va le montrer.
Et alors, en ce qui concerne donc les pesticides, on sait maintenant donc qu'ils ne sont plus autorisés donc dans les communes, dans les collectivités, qui se sont tout à fait adaptés. Aussi là, depuis le 1er janvier, donc dans les jardineries aussi, normalement, on ne devrait plus y avoir non plus forcément de pesticides. Alors en même temps, il y a quand même un certain nombre d'agronomes qui vont vous dire, ils sont très gentils. C'est quoi ces écolo-gauchistes qui veulent pas de pesticides? Ça vous tombe dessus régulièrement sur les réseaux sociaux, cher Fabrice Nicolino, vous le savez. Voilà, ça vous a l'habitude. Bon, moi aussi. Mais donc en même temps, on va vous dire, oui, mais ça a quand même aussi drôlement aidé les pesticides. Et puis si on regarde par exemple le bio, alors là c'est autre chose, mais on utilise quand même le sulfate de cuivre, le dioxyde de calcium, le soufre, on y est encore un peu obligé, quoi. Donc
bon, alors attendez, je vais pas vous raconter toute l'histoire. J'ai fait un livre avec mon ami François Virette.
Nous voulons des coquelicots aux éditions, voilà. Les liens qui libèrent.
Ouais, on a fait ce livre-là pour expliquer l'histoire. Je m'excuse, mais je peux pas tout vous raconter. Simplement, c'est une histoire passionnante, qui est compliquée, qui est paradoxale, parce que ceux qui ont lancé ce système, évidemment, n'étaient pas des criminels. Ils pensaient bien faire, bien entendu. Donc, je vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est une histoire paradoxale. On croyait bien faire, et quand on s'est rendu compte, vers 1962, après après la parution de ce livre extraordinaire de Rachel Carson, Printemps silencieux, quand on s'est rendu compte que les pesticides étaient toxiques, puissamment toxiques, eh bien, au lieu de faire machine arrière, on a préféré le chiffre d'affaires, comme toujours, et on s'est lancé dans un système vraiment de mauvaise foi, de désinformation, qui dure jusqu'à aujourd'hui, 2019. Mais ce que je veux vous dire, pour ce qui concerne les pesticides de synthèse, c'est des pesticides qui sont assemblés chimiquement, dans des laboratoires spécialisés, et ça donne des assemblages chimiques qui n'ont jamais été au contact des systèmes naturels. Jamais. Ce sont des nouveautés absolues. Les systèmes naturels ne sont pas adaptés, n'ont pas eu le temps de s'adapter à ces nouveautés radicales. Ce que vous évoquez pose problème, hein. Je veux dire, le sulfate de cuivre, je ne vais pas défendre bêtement le sulfate de cuivre. C'est sans commune mesure. On ne peut pas comparer. Le sulfate de cuivre, bon, il existe évidemment depuis toujours, et là où il pose problème, ben, il faut oser dire la vérité. Oui, ça pose problème. Il faut trouver une solution meilleure. Mais c'est sans commune mesure. Disons que le rapport entre les pesticides utilisés dans l'agriculture biologique et les pesticides industriels utilisés dans l'agriculture industrielle, ouais, c'est un rapport de 1 à 1000 ou de 1 à 10 000. D'accord. Ça n'a aucun rapport.
Alors ce que je vous propose, cher Fabrice, vous allez écouter cette femme qui, elle aussi, a signé cet appel des coquelicots. C'est donc Émilie Joiseau. Et puis donc, après elle, bien on reviendra donc avec vous, vous à Nantes et nous donc ici à Paris. Émilie Joiseau, bien sûr qu'elle est là. Et d'ailleurs, on la salue. Bonjour Émilie Joiseau. Et je l'ai rencontrée. Donc c'était hier. Et je lui ai demandé, évidemment, dans ses vœux, ce qu'elle souhaitait en tant que femme artiste et mère de famille.
On dit qu'il y fait toujours beau, c'est là que migrent les oiseaux. On dit ça de l'autre bout du monde.
Bonjour Émilie Loiseau.
Bonjour Denis. J'ai envie de commencer par dire que je nous souhaite des rues fleuries de coquelicots agrafé à notre pull, à notre chemise, à notre cœur. Cette fleur qui indique que les sols vont bien et sont vivants, que les oiseaux peuvent continuer d'exister, les abeilles aussi. Donc je souhaite qu'on s'empare de cette fleur et qu'on la mette partout. Je crois que ce serait beau, du rouge dans les rues.
Oui.
Et puis, surtout, je crois que ce que je nous souhaite, c'est qu'on s'empare de nos destins un petit peu. Et qu'on arrête de liker ou ne pas liker, de râler ou de ne pas râler, ou de se contenter, de s'inquiéter pour notre avenir en levant les bras au ciel, en disant de toute façon c'est trop tard, et puis personne ne fait rien, et puis regardez ces grands pollueurs. Je crois qu'en fait il est temps là qu'on s'empare nous de notre destin et qu'on revendique à la fois plus d'égalité, à la fois le droit de vivre pour nous et pour nos enfants sereinement sur une planète viable, de prendre soin de cette planète pour que ce soit possible pour nous. Et en même temps que, du coup, tout ça soit rendu possible par un accompagnement et par une taxation des gens qui polluent le plus.
Les luttes contre le réchauffement climatique et pour la biodiversité sont plus nécessaires que jamais, mais se trouvent entravées. Nous surmonterons ensemble les égoïsmes nationaux, les intérêts particuliers et les obscurantismes.
Alors, ce que vous nous dites aussi, Émilie Loiseau, c'est que, bon, c'est vrai que c'est important de liker, c'est important de signer des pétitions, mais après cela, comment on va dire se réunir? Parce qu'aujourd'hui, les gens croient très très peu dans les partis politiques, quoi.
Peut-être être plus nombreux dans la rue quand même, parce qu'on peut l'être. Je pense que si la prochaine marche pour le climat pouvait être une déferlante, plutôt que une manifestation bien fournie, comme on l'a eu ces derniers temps, mais ça pouvait vraiment être une déferlante au mois de janvier, je pense que ce serait un signe fort. Il y a eu 2 millions de signataires de cet appel, cette attaque
pour
l'affaire du siècle. Je me dis, il y a une prise de conscience très forte, mais maintenant, il faut qu'elle soit visible et concrète. Ah, bon, ça, c'est une chose. Mais effectivement, ensuite, quelles seront les réponses? Je crois qu'elles se passent au niveau des citoyens et au niveau de la société civile. Et je crois beaucoup en ça, moi. Je vois que, effectivement, les gens commencent à se regrouper, qu'il y ait des mouvements qui se forment pour essayer de penser la politique, le politique autrement, et qu'il ait lieu au travers de gens de la société civile qui travaillent pour des collectifs, des ONG qui déjà œuvrent pour toutes les questions écologiques, sociales, migratoires. Et je pense qu'avec ces gens-là, on va pas vers une politique électoraliste. On va vers quelque chose qui parle concrètement des enjeux de ce siècle. Il y a tout un tas de gens qui vont dans un sens finalement infiniment commun. Même les revendications sociales contre les inégalités qui ont eu lieu ces dernières semaines, ces derniers mois, elles sont infiniment liées à tous ces enjeux-là. Tout ça va finalement demande une même chose. Et on peut pas penser écologie si on ne pense pas également à réduire les inégalités sociales. Et je crois que aujourd'hui, si on arrête de croire qu'il va y avoir un homme providentiel qui va résoudre tous nos problèmes et que 5 ans après, comme on sera pas content, eh ben on va changer. Si on arrête de penser comme ça et de se dire que bon, on s'engage pendant le temps des élections et on débat et on n'est pas d'accord et c'est la grande effervescence, puis ensuite tout redescend et on revient à notre petit quotidien. Si on arrête de penser comme ça et qu'on se dit maintenant, c'est à nous de nous atteler au travail et de faire comprendre à nos futurs dirigeants qui ne seront pas élus s'ils ne prennent pas en compte ces certains enjeux, de les définir, de les inscrire et d'imposer, de faire le poids face aux lobbies, face aux grands groupes financiers, face aux banques, face aux grands groupes pétroliers, face à tous ces gens qui aujourd'hui font le poids et ont la main.
C'est eux qui l'ont.
Ils ont la main, mais en même temps, sans nous, ils sont pas grand-chose. Parce que si on consomme pas ce qu'ils nous proposent, si on va pas se réfugier dans des crédits sans fin, si on va pas acheter dans des chez des grands groupes qui se fichent éperdument et des droits humains et de l'écologie et du sort de la planète, si on commence à réfléchir à notre pouvoir en tant que citoyen et consommateur, je crois qu'on peut faire un poids fort. Évidemment, ça paraît très utopiste, très idéaliste, mais je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui qui est si forte que peut-être qu'on peut réussir à commencer à renverser un peu les tables et à changer un peu la donne. J'ai envie de l'espérer et j'ai envie de le souhaiter pour cette année.
Mais alors, véritablement, prendre conscience de nous-mêmes, c'est-à-dire qu'il y avait un jeune garçon, on était au XVIe siècle, qui s'appelait quand même Étienne de la Boétie et qui, du haut de ses 18-19 ans, est parti sur la servitude volontaire en disant « Mais si vous mettez un genou devant vos vassaux, devant vos seigneurs, vous continuerez effectivement à subir les choses. Tandis que si vous prenez conscience de votre propre force et si vous vous relevez, là, ce monde peut changer. » Et c'est intéressant parce que, il y a encore une trentaine d'années, quand j'avais commencé l'écologie, l'environnement, on va dire que c'était un peu au fond à gauche, vous voyez, du jardin. Bon, c'était bien, voilà, bon, c'était tout. Et puis maintenant, ça occupe le centre, vraiment de plus en plus, du business. Pourquoi ? Pas forcément pour des bonnes raisons, pour des questions plutôt de force que de gré, parce qu'on voit évidemment tous ces dérèglements, que ça va coûter de plus en plus cher, etc. Et que là, en fait, la réalité du monde revient vers nous. Là, maintenant, les gens le sentent aussi. Et il y a un discours qui est universel aujourd'hui, c'est celui de l'économie, de l'argent. Et là, on peut se dire aussi que ce monde, avec l'écologie, une écologie bien comprise derrière, ça peut aussi faire du business.
Oui, complètement. Ensuite, Je pense quand même qu'on n'arrivera pas à changer les choses fondamentalement et profondément si on ne change pas radicalement de système. Je pense pas que c'est simplement en rajoutant quelques rayons vrac dans les supermarchés, même si c'est très bien, hein, ou en laissant fleurir quelques magasins bio à des prix qui sont beaucoup trop exorbitants pour une grande partie de la population, et en verdissant nos villes, ça va suffire, quoi. Je crois qu'à un moment, ce système ultralibéral, il est antinomique avec la transition écologique vers laquelle on doit aller pour pouvoir survivre sur cette planète qui est la seule maison qu'on a pour l'instant. Oui. On n'en a pas d'autres, on n'en a pas encore trouvé d'autres. Donc si on tient à nos enfants, si effectivement ce sont la prunelle de nos yeux, comme tous les parents le disent, bah, à un moment on ne peut pas, pour reprendre les propos de cette jeune Suédoise qu'on a vue beaucoup sur Internet récemment, qui m'a beaucoup émue, on ne peut pas, sous leurs yeux, exécuter leur avenir, quoi. On est en train de tuer tout avenir possible pour eux, sous leurs yeux, tout en leur disant « on vous aime mes chéris ». Je pense qu'il faut qu'on commence à réfléchir comme ça. C'est donc urgent qu'on ait une transition radicale et elle ne peut pas passer par des petites mesures. Et je crois qu'il va quand même falloir éviter que l'écologie devienne une récupération, enfin soit récupérée par un système ultralibéral qui en fasse voilà, un business. Je crois que personne n'a envie de manger de la... Pardon, mais manger de la merde, en vrai. Personne n'a envie de manger de la merde. C'est pas vrai. Simplement, quand vous dites ça à quelqu'un qui a à peine les moyens de se remplir assez son frigo au début de mois, bah, il a envie de vous rire au nez et de parler du prix du pétrole parce qu'il doit aller bosser dans sa caisse tous les matins pour gagner une misère. Donc, évidemment, c'est absolument anormal. On devrait tous manger des choses saines et toutes ces choses devraient être accessibles. Donc, il faut commencer à ce que chacun travaillent et produisent des choses qui ne nous donnent pas des cancers, qui ne nuisent pas à nos sols et qui ne nuisent pas à notre environnement et qu'on puisse tous en profiter. Et donc pour ça, bah évidemment, il faut investir de l'argent auprès des agriculteurs pour les amener à une transition qui ne les mette pas, eux, sur le bord de la route. Ça demande des investissements. Et pour l'instant, bah, nos dirigeants ne sont pas prêts à investir cet argent là-dedans. Alors je sais qu'évidemment, c'est très simpliste comme manière de résumer les choses. Mais je crois qu'en fait, parfois, c'est bien de simplifier aussi parce que c'est un peu des décisions aussi simples que ça qu'il faut avoir le courage de prendre aujourd'hui et donc de se creuser la tête pour savoir comment trouver les moyens de les prendre de manière radicale.
Je renonce à la cigarette, à la viande, au lactose, au gluten, au sulfite, au Nutella, au sucre, à l'huile de palme, au gras, au sel, au bonheur, au plastique, au chou kale, à la kétamine, à Deliveroo, au Malibu Coco, au mauvais vin blanc, celui qui fait mal à la tête, à la fête de trop, à Eddy de Préto, au pipi entre les voitures, aux voitures, au diesel, au kérosène, au carburant, au déplacement professionnel.
Émilie Loiseau, on a besoin aussi en ce début d'année d'avoir un très joli coin de nature qui vous est cher. Voilà, alors on ferme les yeux, on vous écoute. Est-ce que c'est l'Ardèche, ce sera les Hautes-Alpes, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça peut être? De quoi vous avez besoin? Peut-être un coin d'Angleterre, je ne sais pas.
Alors oui, j'ai été partagée dans mes amours entre l'Ardèche et les Cévennes et la Lozère. Et ces forêts de châtaigniers, de pins, ces odeurs de sève, ce sont des choses qui me permettent de me recentrer, de me retrouver. Et puis l'océan Atlantique, l'île Dieu où j'ai grandi. Mais là, ce qui me vient tout de suite, c'est mes deux pôles de mon cœur, mais ce qui me vient tout de suite, c'est... Je reviens tout juste des Alpes du Sud.
Dites Hautes Alpes.
Dites Hautes Alpes. Voilà, de Crévoux, de toutes ces belles montagnes enneigées et qui sont encore bien protégées.
Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter maintenant, vous, votre compagnon, vos enfants, et puis on élargit le cercle, peut-être à nous tous.
Mais de la belle musique, je suis en train de réfléchir à la suite. Et puis quand même, je suis en train de travailler pour sortir de cette chanson que j'ai écrite pour l'appel des coquelicots.
Oui, qui va sortir bientôt, d'ailleurs.
Et qui va sortir fin janvier, voilà. Qui s'appelle « Viens avec moi, mon vieux pays ». Et donc, je lui souhaite une longue vie, parce que surtout pour l'appel des coquelicots qui demande l'interdiction des pesticides. Donc, pour nous, demain. Et puis, bah, à mes enfants, je leur souhaite, et à nous tous, surtout quand même, il faut parler de ça, quoi. De la joie, de la joie, de la joie, de la musique. Demain va être formidable, en fait, si on fait les choses comme il faut. Demain va être génial, parce qu'on va être les pionniers de quelque chose de neuf. On va tout réinventer. C'est trop beau de tout réinventer. C'est comme une page blanche, c'est génial. Et je crois qu'il n'y a rien de plus jouissif et de plus excitant. Donc, faisons la fête avec tout ça, plutôt que de nous entendre dire qu'on est replié sur nous-mêmes, anxieux et déprimés.
Alors, il y a un homme qui vous écoute avec un grand sourire, parce que là, il est avec nous en direct, c'est Fabrice Nicolino.
Ah,
voilà, et oui.
Bonne année, Fabrice.
Voilà. À très bientôt, Émilie Loiseau.
À très bientôt, Denis, merci.
Voilà, ben oui, donc elle n'est pas avec nous en direct, vous l'avez très bien compris, Fabrice Nicolino. Vous, vous êtes avec nous en direct, donc ben ça, elle aussi, elle a ce coquelicot donc à la boutonnière. Et puis donc cette chanson va sortir, on va vous la passer donc fin janvier. Donc elle a travaillé aussi pour mettre, on va dire, des rimes, des accords sur, ben sur cet accord que vous recherchez, qui est en fait assez large, hein, sur qu'on, il n'y a pas que des écologistes, hein, Fabrice Nicolino, mais peut-être une réaction par rapport à ce que disait...
loin de là. D'abord, j'embrasse vraiment très fort Émilie Loiseau, elle est fabuleuse, sa chanson est magnifique, donc je l'embrasse très fort. Oui, l'appel, c'est un appel d'humain à d'autres humains, ça n'est pas un appel d'écologiste, c'est nous sommes tous des humains, nous voulons tous des coquelicots parce que nous voulons tous des oiseaux, nous voulons tous des papillons, nous voulons tous des abeilles, nous voulons cesser cette litanie de malades liée à l'usage des pesticides, donc nous sommes des humains. Et c'est en tant qu'humain que nous avons décidé de lancer cet appel. Et vous avez raison, il y a des gens de droite, des gens de gauche. Il y a l'évêque de Troyes que je salue, Monseigneur Marc Stinger. Il y a des tas de gens et je trouve ça absolument prodigieux. C'est vraiment le signe d'une vitalité de la société française. Moi, vraiment, je n'en reviens pas, sincèrement.
On poursuit ce voyage avec vous dans quelques instants. On écoute Émilie Loiseau.
Il y a des choses étranges ici.
Mona, donc Émilie Loiseau sur France Inter, CO2 Mon Amour, et donc avec vous, Fabrice Nicolino. On rappelle bien évidemment que en ce qui concerne cette biodiversité qui dégage très très vite, il y a la chimisation de la société, donc en partie les pesticides, il y a l'urbanisation, il y a les espèces invasives, il y a le réchauffement climatique. Comment on peut accompagner quand même nos amis agriculteurs? Parce qu'évidemment, il y en a certains, quand ils vous entendent, ils voient rouge, ils ne voient pas vert, qui d'ailleurs vote autour de 65% pour la FNSEA, donc quand même un syndicat majoritaire et qui est quand même assez pro-chimie, faut le dire. Comment on accompagne ce virage? Parce qu'on là aussi, on a toujours dit que l'écologie, bien compris, c'était aussi une première des sciences sociales et humaines. Comment on peut faire?
Bah d'abord, premièrement, je veux vous dire une chose qui est très profonde en moi. J'aime les paysans. Je veux dire, c'est pas une bagarre contre les paysans, ce serait absurde de dire ça. Non, nous voulons, je veux personnellement que les paysans sortent d'un système qui les appauvrit, qui les rend malades, qui est sans issue. On est face à un mouvement de nature historique. Vous voyez bien qu'il y a des millions de personnes qui se tournent vers l'alimentation biologique, qui posent des problèmes par exemple d'argent tout simplement. Mais c'est un mouvement historique que rien ne pourra arrêter. Et donc nous, ce que je souhaite, c'est de créer un mouvement très vaste au-delà du mouvement des coquelicots. On en reparlera d'ici un an. On a plein d'idées sur le sujet. On veut créer quelque chose de très puissant pour aider massivement nos paysans à sortir d'un système qui les anéantit. Et donc, on en reparlera. C'est possible de créer un nouveau contrat social, un contrat entre la société française qui a beaucoup changé et nos paysans. Pas un contrat au rabais. Il faudra mettre beaucoup d'argent dans l'histoire. Il faudra repenser les choses. Et moi, c'est une main vraiment fraternelle. C'est pas de la comédie, c'est sincère. Je tends une main fraternelle aux paysans. Je veux qu'il y ait plus de paysans à la campagne, mais pas les paysans noyés sous des tonnes et des milliers de tonnes de pesticides. Donc je condamne des pratiques agricoles et industrielles qui servent les intérêts de quelques-uns et qui nuisent aux intérêts profonds de la société et de la plupart des paysans. Donc il y a une solution, il y a une porte de sortie, j'en suis absolument convaincu. Simplement, Émilie le disait tout à l'heure, je vous le redis, il faut un sursaut de la société, il faut aimer nos paysans. Il faut aimer nos paysans, mais refuser des pratiques industrielles qui sont des pratiques folles et criminelles.
Et si on met donc les mains dans le cambouis, ça veut dire aussi réorienter donc les aides, puisque aujourd'hui cette agriculture fonctionne en partie grâce ou à cause du pétrole d'un côté et de nos subventions, parce que la PAC c'est quand même les uns les autres en tant que citoyens donc qui la payons directement ou indirectement, et donc de réorienter aussi cela. Je crois que beaucoup de nos concitoyens ne sont pas du tout contre d'aider cette agriculture, mais simplement sûrement une autre forme d'agriculture. Donc là aussi, après c'est du courage politique.
Mais vous avez raison. Mais ce qu'il faut, c'est exprimer la puissance de la société. La société est ultra puissante. Avec l'appel des coquelicots, je le redis calmement, on vise 5 millions de soutiens à l'horizon octobre 2020. D'ailleurs, j'invite tous vos auditeurs à venir nous rejoindre, ceux qui n'ont pas encore fait. C'est sur nousvoulonsdescoquelicots.org. On peut signer cet appel et le rejoindre. C'est un appel à l'action. C'est très fondamental ce que je vous dis. Ce n'est pas d'une pétition. C'est un appel à l'action et cette action est claire. Au total, elle est au bénéfice des paysans et de toute la société. Il faut trouver un chemin commun. Nous allons trouver un chemin commun qui sera un chemin d'espoir. Ça repose en effet sur du courage, sur de la vaillance, sur de la joie aussi. On n'est pas obligé de pleurer tous les matins. Nous, quand on dit qu'on veut des coquelicots, on va le montrer. On va montrer concrètement comment fleurir la France avec des coquelicots. C'est un de nos objectifs. On veut refleurir toute la France avec des fleurs sauvages, des coquelicots ou des fleurs de courge ou de quoi que ce soit. Mais on veut montrer la joie qu'on peut éprouver à vivre sur cette terre sans la saloper. Pardonnez-moi le mot, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, sans la saloper. Et ça, il y a quelque chose, il y a une énergie en nous tous, il y a une énergie qui est prodigieuse, il faut la faire sortir comme une fleur sort, comme un coquelicot sort de terre. C'est ça qui va se passer. Dans les mois, dans les prochaines années, c'est ça qui va passer. Et croyez-moi, si on arrive à rassembler plusieurs millions de soutiens, tout va changer. C'est-à-dire que la question paysanne, la question de l'agriculture sera totalement bouleversée. Vous imaginez bien, enfin vous le savez comme moi Denis, tout le monde le sait. Est-ce que c'était si bien de transporter des millions de paysans vers les banlieues où la plupart de leurs enfants sont désormais chômeurs? Est-ce que c'était ça vraiment l'objectif? Il ne s'agit pas d'un retour en arrière, il ne s'agit pas de clamer que les fermes avec des sols en terre battue, c'est très bien. Bien sûr que non. Avec les outils modernes dont on dispose, on peut vivre à la campagne fort bien, sans aucun doute possible, et être enfin accepté par la société. Vous croyez que c'est heureux pour les paysans d'aujourd'hui dont les enfants se font engueuler ou traiter tous les noms dans les cours de récréation? Des témoignages comme ça, on en a des milliers. Je veux dire, c'est devenu infernal d'être paysan en France, alors que c'était un pays, la civilisation paysanne, ça a existé. C'était le fondement de ce pays. Ça a disparu pour des raisons finalement, tout bien réfléchi, mercantiles. Eh bien, On peut changer.
Et alors, d'ailleurs, en vous écoutant, c'est vrai que paysan, donc quelqu'un qui habite le pays, beaucoup d'entre eux se définissent comme étant exploitants agricoles. Là aussi, c'est intéressant de voir comment les mots ont donc bougé.
Mais s'ils veulent plus être paysans, qu'ils restent exploitants agricoles. Nous avons besoin de paysans. Vous avez mille fois raison. De paysans, des gens qui habitent le pays, qui le font vivre dans sa merveilleuse beauté. C'est de ça qu'on a besoin. Les exploitants agricoles qui aillent chercher un autre pays, moi, personnellement, je n'ai rien à avec ces gens-là. Je vous le dis franchement, je le dis sans agressivité, mais les gens qui pactisent avec le système des pesticides et qui en profitent, parce que croyez-moi, ils en profitent, c'est facile à démontrer, eh bien, je crois que ces gens-là doivent laisser la place à de vrais paysans. Et ça, franchement, on sera à leur côté du début jusqu'à la fin de l'aventure. Car c'est une aventure qui commence, une véritable aventure.
Petit rappel, donc aujourd'hui, à quelques pourcents près, mais enfin 80% donc des aides vont à 20% seulement, on va dire, de ces exploitants agricoles. Alors ce que vous avez fait, vous avez fait un état des, enfin vous êtes parti pour faire à la fois donc un état des lieux des pesticides en France, parce que c'est toujours intéressant de voir cela aussi sur une carte, ce que l'on ne sait pas forcément. Et puis ce que vous disiez aussi de faire fleurir aussi la France. Donc c'est les deux quoi. On part du constat et
oui,
après.
Oui, on lance dans de grandes œuvres, si vous voulez. D'une part, l'état des lieux qui se terminera par une carte. On veut mobiliser les milliers, les dizaines de milliers de gens qui se retrouvent devant les mairies, de manière à ce qu'ils nous envoient des milliers et des milliers d'informations, une sorte de Wikipédia, si vous voulez, des pesticides. On va construire une carte unique en son genre, jamais vue encore. On va voir apparaître la totalité des grandes informations qui concernent les pesticides, depuis des informations tout à fait objectifs sur les industries qui existent, jusqu'aux conflits qui existent eux aussi. On veut montrer la réalité des pesticides d'un côté, et de l'autre côté, on va lancer une opération gigantesque, mais vraiment gigantesque, de fleurissement de la France. On veut montrer que la beauté du monde, on y croit, et qu'elle est là à portée de main. On va fleurir dès ce printemps, et surtout au printemps 2020, on va fleurir la France avec des fleurs sauvages, puis avec des coquelicots. Pour les coquelicots, il va falloir attendre un peu, parce qu'il y a des problèmes techniques, on s'y prend un peu tard, mais en tout cas en 2020, il y aura des dizaines de millions de coquelicots plantés en France, et des dizaines ou des centaines de milliers, peut-être des millions de gens qui seront là pour les admirer. Autour de nous.
Alors, avant de se mettre au vert avec Michel Pastoureau d'ici quelques minutes, qui va nous raconter un peu cette histoire du vert, juste pour se quitter, c'est vrai que aujourd'hui, bon, l'écologie n'a pas forcément bien fonctionné parce que montrer le pire, être un peu millénariste sur sa colline en se flagellant, c'est pas exactement un projet qui est extraordinaire. Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une bascule, c'est-à-dire que l'utopie n'est plus dans du côté des gens qui se disent on va pouvoir continuer de cette manière sans arrêt ce même système. Mais elle est passée ailleurs. Et donc, les gens, bien sûr, prise de conscience, ça s'est fait. Et passage à l'action, parce qu'il y a une vraie demande de passage à l'action.
Oui, bien sûr. Et là, encore une fois, je suis obligé de vous dire que vous avez raison. Si vous voulez, le système est totalement utopique, le système réel. Penser que sur un monde aux ressources limitées, fermées, penser qu'on va pouvoir continuer à augmenter, tout ça, vous le savez comme moi, tout le monde le sait, j'imagine, ou en tout cas, beaucoup de gens le savent, ça n'est pas possible. Donc, c'est une sinistre utopie, c'est une dystopie. On va vers un monde absolument infernal. Nous sommes les défenseurs de la vie. Ça veut dire, on est les défenseurs de la vie, de la beauté, de la solidarité entre les êtres humains et de la solidarité avec tout ce qui est vivant sur Terre. Dieu sait, tous les animaux, toutes les plantes. Nous sommes, si vous voulez, nous sommes les pionniers. Émilie le disait tout à l'heure, on va inventer un monde neuf, et ça c'est très exaltant autour de valeurs profondes, indéracinables, des valeurs qui assureront la pérennité de ce monde et la pérennité des sociétés.
Cher Fabrice, donc, c'était les vœux de Fabrice Nicolino, voilà.
Donc, oui, parce ah oui, on a Michel. Ah, mais je vous souhaite à tous, vraiment du fond du cœur, à vous Denis et à tous les auditeurs et au-delà bien sûr. Hein. Ouais, je souhaite une année fantastique. Et moi, je crois, et je vous jure que je le pense sincèrement, je crois que c'est possible. Je crois que nous pouvons tous ensemble vivre une année extraordinaire, pleine de promesses, pleine d'avenir, pleine de beauté. Donc c'est ça que je vous souhaite à tous.
C'était le point sur Nous voulons des coquelicots. Merci, cher Fabrice Nicolino, et à très très bientôt.
Merci beaucoup.
Buonasera, signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera,
with that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop, we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
In the meantime, let me tell you that I love you.
Buonasera, Signorina, kiss me goodnight. Buonasera, Signorina, kiss me goodnight. But to let do that to the pot, bona body, both bent to the bottle of gold. Buonasera, Signorina, buonasera. It is time to say goodnight to Napoli. Though it's hard for us to whisper, buonasera. With that old moon above the Mediterranean Sea. In the morning, Signorina, we'll go walking where the mountains of the sun come into sight. And by the little jewelry shop we'll stop and linger while I buy a wedding ring for your finger.
And in the meantime, let me tell you that I love you.
Luis Prima sur France Inter dans CO2 de Mon Amour, ça nous fait du bien. Le vert, vous savez qu'il a toujours envahi, il a toujours entouré les hommes. Et cette couleur, en fait, n'allait pas de soi parce qu'elle avait mauvaise réputation. On savait la fabriquer, mais on avait pas mal de mal à la stabiliser, surtout en teinturerie. Donc elle était changeante, il y avait une idée de traîtrise derrière. Et même à la fin du Moyen-Âge, vous aviez les diables, les démons, les crapauds, les serpents qui étaient souvent représentés en vert. Oh, il ne faisait pas bon être sorcière aux yeux et aux cheveux verts, aux dents vertes, d'autant qu'elles allaient au sabbat chevauchant des balais de Genêt. Donc vert. Alors, Michel Passoureau, formidable historien, raconteur des couleurs, n'est pas un martien vert, il pourrait être académicien, pourquoi pas. Et donc, avec lui, eh bien, on s'intéresse à cette couleur verte. Bonjour Michel Passoureau.
Bonjour Denis. Il y a quand même un rapport avec le monde végétal qui est senti très tôt, bien sûr, mais ça n'est pas pour autant la couleur de la nature. Il va falloir attendre plus longtemps. C'est l'immaturité, plutôt la couleur verte. C'est les autres couleurs en gestation, le jaune puis le rouge. Il y a une très jolie phrase du linguiste Chomsky qui dit « Les mûres sont vertes quand elles sont rouges
». Mais alors on peut avoir cette immaturité du fruit vert et en même temps, on va dire d'un vieillard, il est bien vert.
Oui, c'est ça qui est fascinant. Toutes les couleurs, bien sûr, sont ambivalentes dans tous leurs emplois. Et le vert, c'est aussi bien l'amour naissant, la jeunesse, le vert paradis des amours enfantines, et puis la vigueur d'un homme qui est encore vert. On l'a dit beaucoup pour Henri IV, par exemple, qui, jusqu'à un âge avancé, jusqu'à sa mort, était un séducteur et un être sexuel, il faut bien le dire, très très vigoureux. On disait qu'il était vert, le vert galant.
Alors, il y a eu des hommes qui ont adoré le vert, il y a eu Napoléon, et d'ailleurs vous dites quasiment qu'il en est mort du vert.
Oui, c'est pas du tout une légende, c'est bien documenté, c'était sa couleur préférée, il s'entourait de verts, surtout des verts un peu foncés, et puis quand il a été prisonnier à Sainte-Hélène, il a fait retapisser mobilier et murs, avec des tentures tout à fait nouvelles. On a utilisé un nouveau produit pour teindre en vert, le vert de Schweinfurt, notamment pour les tapisseries murales. Et c'était un vert à base d'arsenic.
Ah oui, pas bon ça.
Et c'est un vert probablement qui l'a tué. Il a été empoisonné par l'arsenic des tapisseries dont il avait fait tendre les murs. Dans ce climat humide et tropical, ça dégageait des vapeurs d'arsenic. C'est pour ça qu'on en a retrouvé dans ses cheveux et sous ses ongles.
Michel Passoureau, nous allons marcher, nous entrons dans un verger. Alors là aussi, quel est le rapport avec le vert ?
Le rapport entre le vert et le verger, c'est un rapport de vocabulaire, latin d'abord, viridis, la couleur verte, viridarium, le verger. Le verger, c'est par excellence, pour les médiévaux notamment, l'endroit où il y a du vert, de la fraîcheur, de l'eau, des animaux charmants, le bruit des fontaines et toutes sortes de verdures. sur les arbres, l'herbe de la pelouse, parfois les vêtements des personnes qui sont présentes, et ainsi de suite. On retrouve un petit peu de ça dans nos jardins publics, hein, où tout est vert. Moi, je suis un familier du jardin de Luxembourg depuis que je suis petit garçon, et longtemps, les chaises étaient vertes, les arceaux qui bordent les pelouses étaient vertes, les grilles étaient vertes, l'uniforme des gardiens était vert, les kiosques qu'on vendait, les confiseries étaient verts. C'est encore un peu le cas, d'ailleurs. C'est un lieu vert, un peu artificiel, bien sûr, le jardin public. C'est un petit peu du verger médiéval qui est au cœur de nos villes.
Vert de campagne où je suis né, douce compagne de mes jeunes années.
Michel Pastoureau, alors quand même, saluons un attaché de presse extraordinaire du Vert, c'était Jean-Jacques Rousseau.
Oui, Jean-Jacques Rousseau a lancé un courant d'opinion et de sensibilité, un hymne de la nature en quelque sorte, un retour à la nature, l'idée que les sociétés modernes de son temps étaient plus ou moins corrompues, en décadence, cause du malheur des hommes. Donc ça lance ce mouvement romantique qui porte un regard sur la nature un peu différent de précédemment et qui commence à assimiler totalement l'idée de nature à la végétation, ce qui n'était pas complètement le cas auparavant. Depuis l'Antiquité, la nature se définissait par les quatre éléments: l'eau, l'air, la terre et le feu. La nature avait donc quatre couleurs, chacune couleur de ces quatre éléments. Et puis quand la nature est devenue d'abord le monde végétal, progressivement, mais ça s'intensifie à l'époque romantique, la nature devient verte.
Il faut attendre la fin, on va dire, du 18e et le début du 19e pour que ce vert s'installe véritablement. On est dans une couleur, on va dire, beaucoup plus positive.
Le vert se revalorise énormément à la fin du 18e siècle grâce au romantisme, grâce à cette idée qui assimile couleur verte et nature, devient la couleur de la liberté en marche, par exemple. C'est l'époque aussi où les savants font du vert le contraire du rouge à cause de la théorie des couleurs primaires et complémentaires, bien avant nos feux tricolores. Donc si le rouge est la couleur de l'interdiction, le vert, son contraire, devient la couleur de la liberté en marche. Et dans les mouvements pré-révolutionnaire ou révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle, le vert est signe de liberté, et il est resté presque jusqu'à aujourd'hui, donc ça contribue beaucoup à revaloriser la couleur verte.
Sur mes cahiers d'écoliers, sur mon pupitre et des arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom, et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie, je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté.
Il nous faudra attendre le XXe siècle, voire la deuxième partie du XXe siècle, pour que le vert devienne aussi une couleur politique.
Il a failli le devenir à la veille de la Révolution française, quand 3-4 jours avant la prise de la Bastille, Camille Desmoulins ameute la foule dans les jardins du Palais Royal. Il invite les partisans du mouvement des libertés à se reconnaître par un emblème commun. Il cueille une feuille de tilleul, il l'accroche à son chapeau et il dit: faisons du tilleul et de la couleur verte les emblèmes de notre mouvement. Ce qui est fait, sauf que le lendemain, quelqu'un fait remarquer: oui, mais la couleur verte, c'est quand même la couleur de la livrée du comte d'Artois, c'est-à-dire le frère de Louis XVI, le futur Charles X, l'homme le plus réactionnaire de France. Alors, pas possible quand même de s'emblématiser par la couleur verte. Donc l'idée est abandonnée, ce sera la cocarde tricolore qui s'imposera, mais ça aurait pu être une cocarde verte. Mais beaucoup plus récemment, avec la défense de l'environnement, la pensée écologique, les mouvements qui s'y rattachent, le vert, couleur de la nature, est très naturellement, peu à peu, devenu la couleur des partis écologistes à un titre ou à un autre. Et c'est une idée qui est très très fortement ancrée. Donc il y avait une place à prendre du point de vue chromatique, si je puis dire, dans la palette politique. Elle est prise aujourd'hui, elle est solidement prise.
Parce que le rouge et le rose étaient faits avant, quoi. Donc,
Voilà, le rouge ou le rose sont des partis plutôt progressistes, voire à gauche ou à l'extrême gauche. Peu à peu, le bleu est devenu la couleur des partis conservateurs, modérés ou un peu moins modérés. Le noir, c'est la partie des anarchistes, de droite, mais aussi de gauche, des nihilistes, disons. Le blanc, c'est la couleur des monarchistes. L'orangé, et plus récent en politique, c'est la couleur souvent des partis centristes. Le violet, c'est la couleur des mouvements féministes depuis le début du XXe siècle. Donc le vert, aujourd'hui, c'est la couleur des défenseurs de la planète, de l'environnement, du monde naturel et sauvage.
Nous partions dans un beau sous-marin vert, un sous-marin vert comme la mer. Tantôt vert et tantôt bleu, tantôt vert et bleu, comme nos rêves bleus.
Regardons, Michel Pastoureau, cet arbre délicieux, cet arbre médicinal, c'est aussi un arbre chantant qu'est le tilleul.
Le tilleul a été en Europe l'arbre préféré dans la longue durée. C'est déjà l'arbre préféré des Romains, des Gaulois, des Germains. C'est l'arbre préféré des hommes et des femmes du Moyen-Âge. Ça devient à l'époque romantique l'arbre de la liberté. On plante un tilleul sur la place du village, qui sera la mémoire du village et la mémoire des libertés acquises assez souvent. C'est un arbre très beau, il faut bien le reconnaître. Virgile explique déjà que le tilleul, c'est à la fois l'arbre de la musique, parce que il retentit constamment du chant des abeilles, qui adorent le suc de tilleul. C'est l'arbre de l'amour, parce que ses feuilles ont la forme d'un cœur, il est très forte au Moyen-Âge, et puis c'est l'arbre de la pharmacopée, parce qu'on tire du tilleul beaucoup, beaucoup de produits qui ont rapport avec la santé et le bien-être, ce qu'on nous faisons encore aujourd'hui.
J'aime le vert un peu bleu, et le bleu un peu vert. J'aime le vert un peu bleu, et le bleu un peu vert. Et le vert un peu bleu, et le bleu un peu vert. Et le vert un peu bleu.
Michel Pastoureau, sinon globalement, par rapport donc à l'environnement, revenons à ce vert qui nous entoure, quel rapport vous entretenez ?
Je dois préciser que la couleur verte est ma couleur préférée depuis que je suis tout petit garçon. Je n'ai jamais changé. J'ignorais tout de l'écologie quand, vers 3 ou 4 ans, j'ai constaté que c'était le vert que je préférais. J'ai été, sans m'en rendre compte d'ailleurs, initié à ce qu'on peut appeler l'écologie un peu avant la lettre parce que j'ai fait du scoutisme, j'ai été louveteau dans les années 50 et il y avait un respect de la nature qui nous était enseigné, le béaba en quelque sorte, enfin pas jeter de papier par terre, ramasser les cochonneries qu'on avait faites en forêt, surtout être très prudent avec le feu, de ce genre de choses. Mais
oui, mais vous avez eu des réflexes dès l'enfance.
Dès l'enfance qui m'ont été appris, et donc je les ai gardés, bien sûr, dont des comportements du quotidien, notamment l'eau. L'eau m'obsède beaucoup, je pense que l'immense problème de la planète, ça va être l'eau, j'en suis absolument persuadé. Donc je fais des gestes tout simples, quand je me lave les dents, par exemple, je coupe le robinet, des choses comme ça. Mais en même temps, je dois être plein de contradictions, sans m'en rendre compte. Mais je suis assez heureux que ma couleur préférée, c'est quand même à elle qu'on confie le soin d'essayer de sauver la planète, et ça c'est une très très belle mission pour la couleur verte.
Il y a une expression qui est « se mettre au vert ». Elle est relativement récente, cette expression.
On a pris conscience, dans la seconde moitié du 19e siècle, qu'on souffrait en ville du manque de nature, du manque de végétation, donc on a fait peu à peu entrer la nature dans la ville, de manière un peu artificielle, mais enfin les parcs et les jardins, les coulées vertes, et puis la banlieue verte, la ceinture verte. Et alors quand on étouffe dans le monde urbain qui longtemps a été gris, on va se mettre au vert en allant un peu plus loin dans la nature qui environne la ville, voire plus loin encore avec les moyens de circulation moderne, bien sûr.
Écoutez, cher Michel Pastoureau, que peut-on vous souhaiter en ce début d'année ? De vous mettre un peu plus au vert encore ?
Voilà, de me mettre au vert, de me reposer parce que je suis totalement épuisé. J'étais dans le jaune jusqu'à des dates toutes récentes parce qu'on m'interviewe beaucoup pour parler de l'histoire et de la symbolique du jaune. C'est la magie des couleurs.
Aussi quand même remercier nos amis romains. Bah oui, parce que les Grecs, ils n'avaient pas trouvé les bons mots pour dire le vert, tandis que les Romains, ils ont stabilisé le vocabulaire avec ce fameux Viridis, voilà. Donc il faut les remercier. Alors on va remercier quand même Michel Pastoureau. Vert, l'histoire d'une couleur, c'est dans la collection Histoire au Seuil. Hein. Donc maintenant c'est en poche. Enfin, c'est dans la collection donc Le Point. Et puis cet homme-là aussi a écrit un ouvrage il n'y a pas tellement longtemps. Je l'ai pas encore lu. Hein, pour être très franc sur les loups, il avait fait aussi un ouvrage assez remarquable sur les ours il y a quelques années. Et là donc maintenant c'est aussi sur les loups. Un grand merci à Juliette Delperroux qui est avec nous à la technique. À Thomas Lehété, notre assistant, à Henri-Marc Mutel qui a réalisé cette émission, à Thierry Dupin qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour, donc là vous en avez un certain nombre, et entre autres, vous l'avez bien compris, Nous voulons des coquelicots, ouvrage signé avec François Veillerette aux éditions donc des Liens qui libèrent, donc vous avez tout cela. Le répondeur 01 56 40 40 35, vos vœux de nouvel an, ce que vous souhaitez pour la planète, pour la Terre, pour voilà, n'hésitez pas, 01 56 40 40 35, parce qu'au mois d'avril je vous dirai pas la même chose, enfin vous avez l'habitude, hein, 01 56 40 40 35. Le podcast, écoutez, abonnez-vous au podcast, le Twitter, il y en a un tout simplement chez Sou, et puis rediffusion entre 5h et 6h du matin, et je n'oublierai pas la tuile du Mont-Petit-Loup, ce sera demain à 19h54, vous savez presque tout.